Nous avons la chance en France d'avoir des centres de référence pour les maladies rares. Et en particulier, nous avons un centre de référence pour les maladies rénales génétiques.
En Francia tienen la gran suerte de tener centros de referencia, que es por lo que estamos luchando aquí, y hay centros de referencia de enfermedades renales hereditarias.
Dans nos centres de référence, nous associons les départements de néphrologie, adultes, pédiatriques, génétiques, les laboratoires, biochimie, physiologie, tout cela pour aider au diagnostic moléculaire, clinique, biologique des maladies rares rénales, que ce soit en prénatal, chez l'enfant ou chez l'adulte.
Es una atención integral que incluye nefrología pediátrica, nefrología de adultos, departamentos de genética, de inmunología, laboratorios de bioquímica, de fisiología. Todo eso da lugar a diagnósticos moleculares, clínicos y datos fisiológicos y biológicos que llevan a un mejor cuidado del paciente desde la época prenatal hasta infancia y adulto.
Donc aujourd'hui, on va parler un peu des traitements des maladies génétiques. En théorie, le traitement des maladies génétiques pourrait être celui de remplacer le gène muté, mais vous savez que tous les essais de thérapie génique ont eu très peu de succès ces dernières années.
Una estrategia para tratar enfermedades renales hereditarias sería reemplazar el gen mutado, lo que es la terapia génica. Pero como saben, ha sido una estrategia de momento fracasada.
Il y a la posibilité qui commence dans des essais cliniques déjà de supprimer l'ARN mutant avec des petites molécules qu'on appelle oligonucléotides.
Existe la posibilidad de neutralizar o bypassear, digamos, la mutación mediante oligonucleótidos antisense que eliminan este defecto del RNA.
Y a la posibilité assez rare finalement de remplacer une enzyme qui manque, par exemple dans la maladie de Fabry et d'autres maladies, et la possibilité théorique de faire de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire de apporter des cellules normales à la place des cellules malades, notamment avec les cellules souches.
Existe la posibilidad para algunas enfermedades renales hereditarias administrar la enzima que falta, como es el caso de la enfermedad de Fabry. Luego se estudian otras terapias basadas en terapia celular, incluso células madre.
De très loin, les approches les plus réalisables en pratique sont de rétablir les voies de signalisation par une approche pharmacologique, et c'est bien sûr ce qui est le plus facile et ce qui est fait actuellement.
L'abordaje más común actualmente y en lo que tenemos más esperanzas a corto plazo es la terapia farmacológica.
On va parler principalement aujourd'hui maintenant de la polykystose. Vous connaissez tous la polykystose autosomique dominante sur trois générations, qui peut toucher non seulement les reins mais aussi le foie, plus rarement le cœur et les intestins. Et ce que l'on cherche à faire, c'est d'éviter qu'un rein normal de cette taille-là devienne un énorme rein polykystique qui peut peser jusqu'à 10 kilos.
Se va a centrar de entrada en la poliquistosis renal autosómica dominante. Como bien sabéis, enfermedad que afecta a diversas generaciones y puede afectar a diversos órganos. Y el objetivo principal del tratamiento, como se ve en el panel de abajo en medio, sería de conseguir que los riñones no se convirtiesen en quísticos y grandes, como es el de la izquierda.
Dans la poliquistose renal, au long cours de la vie, les reins grossissent. Et ce qu'on peut mesurer de la fonction rénale reste stable pendant des années et puis tardivement décline assez rapidement. Et la question que l'on se pose, c'est comment peut-on traiter assez tôt, avant le déclin de la fonction rénale, et comment peut-on mesurer la progression de la maladie?
La función renal se ve en el gráfico de abajo, en la poliquistosis se mantiene estable a pesar de que van apareciendo quistes, hasta que llega un momento que disminuye la función renal. Entonces, el objetivo sería poder tratar en una fase relativamente precoz para evitar llegar a esta fase de declive de la función renal y a la vez encontrar alguna medida de progresión de la enfermedad.
Donc la question est qu'est-ce qu'on peut mesurer pour mesurer la progression de la maladie et tester des nouveaux médicaments dans une période qui n'est pas trop longue, parce qu'on ne peut pas faire des essais cliniques qui durent 10 ans.
L'objectif est que vamos a mirar para evaluar la progresión de la enfermedad para no hacer ensayos clínicos que duren muchísimos años.
Une des idées qui est survenue il y a une dizaine d'années, c'est le volume des reins qu'on peut mesurer par IRM. Et cette étude sur 3 ans a montré que pour chaque patient, le volume des reins augmentait assez rapidement pour beaucoup de patients sur une période de 3 ans, alors que d'autres avaient une croissance beaucoup moins importante. Et c'est surtout cette population-là chez qui on va s'adresser pour les premiers essais thérapeutiques.
En este gráfico podemos ver cómo la evolución de los riñones, del volumen de los riñones, incrementa en 3 años. Pero podemos ver que hay distintos tipos de progresión. Algunos se mantienen muy estables durante 3 años, a pesar de tener un volumen bastante grande, y otros aumentan más rápido. Y precisamente es en esta población que aumenta más rápido la que ha sido el objeto de los ensayos clínicos realizados o los que se están haciendo actualmente.
Il a été montré par une étude CRISP que le volume des reins augmentait sur une période de 8 ans et que en parallèle la fonction rénale qui restait un peu stable pendant quelques années déclinait après, et un volume rénal élevé prédit le déclin de la fonction rénale.
Se ha visto en el estudio CRISP, esto es una evolución a 8 años, que el volumen renal aumenta y la función renal disminuye.
Alors, il y a une étude en cours aux États-Unis qui s'appelle ALT-PKD, qui utilise les inhibiteurs du système renine-angiotensine, que vous connaissez sûrement, sans entrer dans les détails, où on va mesurer selon la population, si elle a une fonction rénale normale, on va mesurer le volume des reins. Et si la fonction rénale est altérée, on va mesurer la pente du débit de filtration rénale. Et cette étude sera finie fin 2014.
Comenta sobre el estudio HALT que se está realizando en Estados Unidos, que consiste en el tratamiento con IECAS o IECAS y ARA2, o sea, los medicamentos que acaban en Pril y en Sartán, los dos combinados o uno solo, control estricto versus menos estricto de la presión, con el objetivo de ver qué acción ejercen sobre el volumen renal en los casos con función renal normal, o bien qué función ejercen sobre el deterioramiento de la función del riñón en los casos en que ya la función renal está alterada.
Alors, les cibles potentielles dans la polykystose sont venues des études physiologiques sur des cellules, sur des souris, au cours des 20 dernières années. Et il est apparu qu'une petite molécule clé dans la cellule était l'AMP cyclique, qui est augmentée dans les reins de polykystose et qui va favoriser la prolifération des cellules et la sécrétion de chlore et d'eau qui va permettre aux kystes d'augmenter. Et on a testé depuis quelques années des drogues qui ciblent l'AMP cyclique. Et on va parler des analogues de la somatostatine, des antagonistes de la vasopressine et un peu moins des inhibiteurs de mTOR.
A través de modelos animales se han encontrado las alteraciones en la célula poliquística. Una de estas alteraciones, la principal, creemos que puede ser el AMP cíclico, que se encuentra elevado, y entonces se han ensayado distintos fármacos, como son los análogos de la somatostatina, los antagonistas de los receptores de la vasopresina y los inhibidores de mTOR, como posibles fármacos que podrían contrarrestar este AMP cíclico aumentado.
Alors, les inhibiteurs de mTOR, on va vite passer, parce que ils ont marché dans tous les modèles de polykystose chez la souris, mais chez l'homme, il y a deux essais très bien faits qui n'ont pas montré d'effet bénéfique avec le sirolimus et l'everolimus.
Los inhibidores de mTOR, que son sirolimus y everolimus, vamos a pasar rápido porque a pesar de que han sido útiles en muchos modelos animales, en humanos han habido dos ensayos muy bien hechos que han mostrado que no tenían eficacia, por lo tanto no vamos a insistir en ello.
Les analogues de la somatostatine ont été essayés, surtout dans la polykystose hépatique. Deux essais, un aux États-Unis, à la Mayo Clinic de Vicente Torres, que vous connaissez, puisqu'il est de Barcelone, chez des femmes principalement qui avaient des très gros foies, environ 4 litres. Et il a été montré sur une courte période de 1 an que les patients qui avaient une injection de octréotide une fois par mois avaient plutôt un foie, un volume du foie qui diminuait, alors que les patients qui étaient sous placebo avaient un volume du foie qui augmentait.
Respecto a los análogos de la somatostatina, que eran uno de los fármacos que disminuía los niveles de AMP cíclico, el estudio de la clínica Mayo, liderado por Vicente Torres, ha mostrado resultados bastante prometedores. Estudió básicamente mujeres poliquísticas con hígados grandes y vio que a un año, después de un año de tratamiento, el volumen de estos hígados disminuía, mientras que los tratados con placebo aumentaba.
Et ces résultats restaient vrais après 2 ans.
Y se mantenían durante 2 años estos resultados.
En ce qui concerne le rein, une étude très récente italienne, appelée Aladin, a étudié l'effet d'un autre analogue de la somatostatine, le lanréotide, chez 70 patients atteints de polykystose, un groupe placebo et un groupe octréotide. Et ils ont mesuré d'abord le volume rénal total par au scanner, et on voit qu'après 3 ans, le rythme d'augmentation du volume rénal total est un petit peu moins élevé dans le groupe qui prend l'octréotide par rapport au groupe placebo.
Este es el estudio muy recientemente publicado del grupo de Remucci de Bergamo con l'antiotride, otro tipo de análogo de la somatostatina, y se ve que a 3 años, creo que era, 3 años, a 3 años, el crecimiento de los riñones es algo menor en el grupo tratado que en el grupo placebo.
En ce qui concerne la fonction du rein, les effets sont un peu plus mitigés. Après 1 an, d'abord on voit que dans le groupe placebo, la fonction du rein baisse régulièrement sur 3 ans. Et dans le groupe traité, il n'y a pas de différence après 1 an. Mais après la 2e et la 3e année, on commence à voir une différence qui est significative.
Respecto a la función renal, después de un primer año no hay diferencias entre el grupo tratado y el grupo placebo, pero a lo largo del segundo y tercer año sí que vemos ya que hay unas ciertas diferencias en cuanto a mejor función renal el grupo tratado que el grupo placebo.
Cet médicament est connu depuis longtemps, utilisé dans d'autres indications, et il a un bon profil de tolérance. Un des seuls effets secondaires qu'il y a, ce sont un peu des diarrhées et rarement des lithiases de la vésicule biliaire ou des cholécystites dans, on a vu, 5% des cas.
Es un medicamento que hace muchos años que se usa para otras indicaciones que no tienen nada que ver con la poliquistosis y tiene un perfil de seguridad bastante bueno. Solo en algunos pocos casos ha habido algo de diarrea, piedras en la vesícula y inflamación de la vesícula biliar.
Il y a d'autres essais en cours avec la somatostatine, un en Hollande et un en France que nous allons débuter le mois prochain avec la même drogue, le lanréotide, en regardant la pente de la fonction rénale du débit de filtration glomérulaire.
En el Necker, en Francia, en un estudio multicéntrico, van a empezar a usar también la antiotride y para ver con el objetivo principal de ver la función renal más que el volumen. Y en Holanda también hicieron uno.
La troisième drogue qui a été utilisée sont les antagonistes de la vasopressine, qui vont donc bloquer aussi la production d'AMP cyclique.
Otros fármacos utilizados es los antagonistas del receptor de la vasopresina, que ahora nos va a contar.
Cette hormone naturelle sert à faire retenir de l'eau par le rein. Et donc, quand on va bloquer cette hormone, on va uriner beaucoup.
Esta hormona, la vasopresina, lo que hace es hacer que no se orine, retener agua a través de la orina. Por lo tanto, cuando se bloquea esta hormona, lo que se produce es que se orina mucho.
Les essais chez la souris, voyez, datent déjà d'il y a presque 10 ans, et c'était très spectaculaire. Dans plusieurs modèles de souris, on obtenait une amélioration de la polykystose.
En modelos animales, hace ya 10 años, el grupo de Vicente Torres ya demostró una gran eficacia en ratones con antagonistas del receptor de la vasopresina.
L'étude a été publiée au mois de décembre. Cette étude s'appelle l'étude Tempo et elle incluait 1500 patients, vous en avez entendu parler déjà, de moins de 50 ans, avec une fonction rénale pas trop altéré, et déjà des gros reins au-dessus de 750 millilitres. Et on va regarder, le critère principal était le volume rénal après 3 ans.
El estudio sponsorizado por Otsuka, con el antagonista del receptor de la vasopresina, el tolvaptan, fue llevado a cabo por 1.500 pacientes en tres continentes, con la dosis máxima de tolvaptan tolerada, en pacientes de menos de 50 años, con un filtrado glomerular de más de 60, o sea, una función renal muy preservada, y con un volumen renal grande. Y el criterio principal de valoración era el volumen renal durante 3 años, mientras que el secundario era el filtrado glomerular, la función del riñón.
L'effet sur le volume renal est montré ici. Dans le groupe placebo, le volume des reins augmente de 2,8% par an, et dans le groupe qui prenait du tolvaptan, le volume augmente moins, à peu près de moitié, de 2,8%.
El volumen renal aumenta la mitad en el grupo tratado que en el grupo no tratado.
Et ceci était vrai dans tous les sous-groupes, quel que soit l'âge, la fonction rénale, le volume des reins.
Y esto es cierto para todos los grupos distribuidos por edad, sexo, hipertensión o hipertensión, función renal, etc.
Sur la fonction du rein, le groupe placebo avait, voyez, sa fonction rénale déclinée de moins 3,7 ml par minute par an, alors que le groupe tolvaptan déclinait un petit peu moins, vous voyez, 2,7 ml par an. C'est un gain de 1 ml par minute par an, qui est modeste, mais qui est statistiquement significatif.
Sí, el beneficio sobre la función renal es modesto, no es muy espectacular, pero es de 1 ml año de diferencia de los tratados con los tratados, pero es significativo.
Il y a aussi un effet sur la douleur, mesurée par un questionnaire, et on voit que dans le groupe tolvaptan, les événements de douleur rapportés par les patients étaient moins fréquents que dans le groupe placebo.
En cuanto a los eventos relacionados con el dolor, realmente sí ha habido diferencias significativas en el grupo tratado con tolvaptan, que han tenido menos dolor, digamos, que el grupo tratado con placebo.
Les effets secondaires sont ceux attendus pour cette drogue, la soif, la polyurie, et éventuellement la nicturie, le lever nocturne pour uriner.
Los efectos secundarios principales vienen dados por el gran aumento de la diuresis. Entre paréntesis veis el porcentaje. Este es sed, luego poliuria, orinar mucho, y nocturia, orinar por la noche. Veis que el porcentaje es bastante alto.
Y un effet inattendu, que no es lié al mecanismo de acción del medicamento, était la toxicidad sur el foie, avec 9 patient qui avait une élévation des enzymes du foie.
Un efecto no esperado porque no está relacionado con el mecanismo de acción del fármaco es una elevación de los enzimas hepáticos que en cifras altas es este tanto por ciento, en cifras bajas es bastante más.
Alors au mois de septembre, les autorités américaines, la Food and Drug Administration, n'a pas accepté de autoriser le tolvaptan pour la polykystose. Probablement pour deux raisons. Premièrement, pour la toxicité sur le foie, mais ce n'est pas irrémédiable, parce que d'autres drogues ont aussi une toxicité sur le foie. Et deuxièmement, parce que ils n'étaient pas assez impressionnés par les effets, notamment, on ne sait pas si le volume rénal est un critère assez pertinent pour dire que ça va être bénéfique aux patients. Deuxièmement, est-ce que si on diminue le volume rénal, on va diminuer la détérioration de la fonction rénale? Et est-ce que l'effet sur la douleur est peut-être en partie subjectif? Et enfin, l'effet sur la fonction rénale est modeste.
El mes de finales de agosto, principios de septiembre, la FDA, que es la agencia reguladora del medicamento americana, no aprobó el tolvaptán para la poliquistosis, de momento, con los datos que había hasta el momento. Los motivos que esgrimió fueron, por una parte, la toxicidad hepática, que bueno, existía, pero no es el punto principal, porque hay otros fármacos aprobados con mismo nivel de toxicidad, es una toxicidad controlable perfectamente, pero el problema es que tampoco estaban muy impresionados por los efectos beneficiosos. La FDA no acepta, a diferencia de las agencias europeas, el volumen renal como un objetivo. No tienen claro, o no aceptan, o no se creen que el volumen renal se traduzca en peor función renal. Luego también dijeron que el dolor era algo muy subjetivo, pero bueno, y que el cambio en filtrado glomerular era modesto, el beneficio era modesto, era escaso.
Donc au jour d'aujourd'hui, aucune drogue n'est approuvée pour la polykystose dans aucun pays. Mais pour le tolvaptan, on verra au Japon et en Europe. Il y a encore l'espoir puisque les dossiers sont en cours. Il y a beaucoup de nouvelles drogues qui sont à l'essai en préclinique chez les animaux, notamment les souris. Et beaucoup de travail est encore nécessaire pour trouver probablement le ou les médicaments utiles dans la polykystose. Et de plus en plus, on se rend compte que les patients ont un rôle important à jouer pour participer à des études, bien sûr, et pour rentrer dans des registres qui permettent de mieux connaître l'évolution de la maladie et de comprendre pourquoi certains progressent vite et d'autres ne progressent pas. Aussi vite.
De momento no hay ningún medicamento aprobado para la poliquistosis en ningún país del mundo. Hay esperanza de que los nuevos fármacos en estudio puedan llegar a ser aprobados en los próximos años, incluso el tolvaptán que hemos nombrado. Hay bastantes estudios preclínicos en modelos animales y es imprescindible esto para llegar a tener moléculas útiles para estudios en humanos. Son esenciales los registros de pacientes, las bases de datos, que serán un instrumento imprescindible para identificar qué pacientes son los que progresan rápido y serían los candidatos a entrar en ensayos clínicos. Como dice aquí, los progresadores rápidos serían los que darían más información de forma más rápida y más eficaz.
Un petit mot sur la sclérose tubéreuse de Bronneville, que vous connaissez. Donc on quitte la polykystose, c'est une autre maladie, plus rare, qu'on voit beaucoup moins, qui peut toucher le système nerveux central, donner de l'épilepsie, des troubles du comportement, retard mental, des tubères corticaux et des astrocytomes, qui sont des tumeurs bénignes à cellules géantes.
Una enfermedad distinta, no tiene nada que ver con la poliquistosis, es la esclerosis tuberosa. enfermedad genética también, que cursa, puede cursar con epilepsia, retraso mental, autismo, lesiones cerebrales, astrocitomas cerebrales.
Les lésions de la peau aussi sont très fréquentes et moins graves mais gênantes au plan esthétique, notamment ces fameux angiofibromes qui sont assez caractéristiques de la maladie.
También da afectación cutánea y la lesión más típica son los angiofibromas faciales, que son estas fotos que se ven aquí, que es bastante bastante típico de la enfermedad, no grave, pero sí bueno, obvio.
La teinte aussi peut toucher le poumon, notamment chez les femmes, et donner ces kystes dans les poumons qu'on appelle l'infangiomatose pulmonaire.
También puede afectar al pulmón, sobre todo en mujeres, dando lugar a la linfangioleiomiomatosis pulmonar, que da problemas respiratorios que pueden llegar a ser severos.
La teinte rénale est très fréquente et c'est, il peut y avoir des kystes, un peu comme dans la polykystose, mais surtout il y a ce qu'on appelle des angiomyolipomes, qui sont des tumeurs bénignes, très vascularisées, et le risque c'est qu'elles peuvent se rompre et saigner.
La afectación renal es muy frecuente y de lo que nosotros nos ocupamos, lógicamente, da lugar a unos tumores renales benignos, pero que tienen mucha circulación, muchos vasos, y que el problema principal es que se pueden romper y sangrar y dar problemas muy graves.
Très rarement, il y a des cancers du rein.
Muy raramente cáncer renal.
Les progrès ont été assez rapides dans cette maladie parce que on a identifié le produit des gènes qu'on appelle tubérine et amartine et on a identifié la voie de signalisation dans laquelle était impliqué c'est le produit de ces gènes. Et on s'est rendu compte il y a une dizaine d'années que les produits de ces gènes, TSC1 et TSC2, inhibaient la kinase mTOR, dont on connaît les effets sur la prolifération cellulaire, l'angiogénèse et le métabolisme. Et donc, naturellement, on a voulu étudier, utiliser des inhibiteurs de mTOR dans cette maladie.
En este caso, a diferencia de la poliquistosis, sí conocíamos muy bien las proteínas para las que codificaban los genes de la esclerosis tuberosa y estas proteínas actúan directamente sobre la molécula mTOR, con lo cual, y esta molécula claramente está implicada en la proliferación celular, en la producción de vasos, o sea, lo que realmente aparece en esta enfermedad. Con lo cual, mTOR es una molécula, un muy buen objetivo para tratar. Entonces, los inhibidores de mTOR se han ensayado para esta enfermedad. Sirolimus y Everolimus que hemos nombrado antes.
Il y a eu d'abord des effets des cas isolés sur l'atteinte cérébrale, comme ici. Vous voyez un effet sur un tubère avant et après traitement.
Tiene efectos sobre las lesiones cerebrales. A la izquierda, un caso sin tratar, y a la derecha, abajo a la derecha, que veis cómo se ha reducido lo blanco con el tratamiento.
O sur un astrocitoma aussi, avant et après traitement.
También en un tumor benigno cerebral de esta enfermedad, cómo se ha mejorado antes y después.
Une étude a été terminée et publiée il y a quelques mois dans le Lancet, touchant 118 patients, c'est une diapositive que Roser m'a passée, qui avait une atteinte notamment d'angiomyolipome de plus de 3 cm, et comme toujours, c'est une étude qui était randomisée avec une partie des patients qui prenaient un placebo et une partie qui prenait 10 mg par jour d'Everolimus. Et on a mesuré la progression des angiomyolipomes.
Se ha realizado el estudio EXIS-2 que se publicó recientemente en el Lancet con 118 pacientes con esclerosis tuberosa randomizados 2-1, dos a tratar con Everolimus y uno con placebo a esta dosis de 10 miligramos y los resultados son a 6 meses en este estudio.
Et on a regardé surtout la progression du volume des angiomyolipomes. Là encore, c'est un peu comme dans la polykystose, on est obligé de mesurer des volumes en radiologie et ce n'est pas toujours très facile.
Los objetivos que se miraban es el volumen de las lesiones, en este caso un objetivo bien aceptado, pero no fácil de medir siempre.
Et les effets étaient tout à fait positifs, puisque dans le groupe placebo, il n'y avait aucune régression du volume, alors que dans le groupe Everolimus, on avait près de 40% des patients qui avaient une réponse significative.
Sí. A los seis meses nadie del grupo placebo había mejorado y un 40% solo con seis meses ya habían hecho una mejoría importante.
Et on voit ici, c'est les patients représentés individuellement que la baisse du volume des angiomyolipomes peut être très importante, de 75% à quelques pourcents, alors que dans le groupe placebo, la plupart ont une augmentation du volume.
Podemos ver cómo en este poco tiempo llegan a haber disminuciones de volumen de hasta el 75%, solo en seis meses, mientras que en el grupo placebo no hay cambios significativos.
Et cette étude a conduit au fait que l'everolimus était maintenant approuvé dans plusieurs pays, j'imagine ici en Espagne, en France et dans beaucoup d'autres, pour le traitement de la sclérose tubéreuse. Je voudrais quand même dire que en ce qui concerne les angiomyolipomes, nous avons une grande expérience à Necker avec plus d'une centaine de patients qui sont présentés avec des angiomyolipomes importants et que le risque de rupture et de saignement fait que souvent le traitement va être l'embolisation, le traitement classique, notamment pour des angiomyolipomes qui ont une grosse taille et qui ont surtout des anévrismes à l'intérieur. Parce que ce sont ceux qui ont le plus gros risque de rupture. Et la place de l'everolimus par rapport à l'embolisation faite par le radiologue n'est pas encore bien claire.
L'everolimus a sido aprobado en muchos países. Dice que en Francia lo está, en España está aprobado actualmente para los astrocitomas cerebrales, los tumores cerebrales en la esclerosis tuberosa, y probablemente en primavera esté aprobado para los angiomyolipomas renales. Pero de momento se está dando con un ensayo clínico. Ellos tienen mucha experiencia en el Necker en embolizar, esto quiere decir en obturar la arteria que da sangre a estas lesiones. Cuando la lesión, este tumor renal, es grande y sobre todo muy grande, y si tiene microaneurismas, o sea, pequeñas dilataciones de las pequeñas arterias que hay dentro del tumor, entonces se sigue recomendando la embolización, si no el tratamiento con everolimus.
Il est Roser, il est l'heure ou j'ai 3 minutes?
Tu as 3 minutes, bien sûr.
Juste un mot sur le syndrome d'Alport, parce que je sais que beaucoup de gens aussi sont intéressés par le syndrome d'Alport, en trois minutes, pour vous dire qu'on essaie de travailler beaucoup sur le syndrome d'Alport en France. On a essayé de recenser tous les cas de syndrome d'Alport, environ 500 cas, pour entrer les données dans une database, essayer de mieux comprendre l'histoire naturelle de cette maladie.
En Francia tienen mucho interés en el síndrome de Alport, la IRG ha dado mucho soporte y han establecido una base de datos de 500 pacientes de muchos centros de Francia.
Les traitements
du... C'était quoi, de Barack Obama?
Non, c'est le database, electronic database, c'est le nom du patient.
Ah, ok.
He doesn't have Alport. Il n'a pas le syndrome d'Alport.
Pensaba que Barack Obama tenía Alport. Es el nombre del un nombre de un paciente imaginario de la base de datos. Vale, vale.
It's a joke. dans le syndrome d'Alport, il n'y a pas eu de traitement révolutionnaire depuis ces 20 dernières années, mais une étude rétrospective faite par Oliver Gross en Allemagne, à laquelle nous avons participé aussi, a consisté à observer les patients atteints de syndrome d'Alport qui avaient eu un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui bloque le système rénine-angiotensine par rapport à ceux qui ne l'avaient pas eu ou qui l'avaient eu tardivement. Et on voit que historiquement, les patients qui n'ont jamais eu ce traitement arrivent en moyenne, 50% arrivent en dialyse à l'âge de 20 ans. Ceux qui ont pris le traitement assez tard dans la maladie, quand ils avaient déjà une proténurie, arrivent un petit peu plus tard en dialyse en moyenne vers 27-28 ans. Ceux qui l'ont pris assez tôt au stade de microalbuminurie semble arriver encore plus tard en dialyse, vous voyez, avec aux alentours de plutôt 40 ans. Et ceux qui ont pris très tôt le médicament dans l'enfance, ceux-là, pour l'instant, n'étaient pas arrivés au stade d'insuffisance rénale terminale, mais il y avait un tout petit nombre de patients. Mais ces courbes, quand même, semblent montrer que ce traitement peut modifier l'histoire naturelle de la maladie.
Este es un estudio realizado por Oliver Gross de Alemania, en el cual han participado ellos, nosotros también, y es de tratar con IECAs. IECAs son los que acaban en pril, en alapril, captopril y sinopril, todos estos, a pacientes con Alport. Entonces vemos las curvas, la roja es la sin tratar, con una edad media de llegada a diálisis de 20 años, y esto se va retrasando, la amarilla se han empezado a tomar estos fármacos bastante tarde, ya con proteinuria, la verde pues con menos proteinuria o con microalbuminuria, y los que han empezado en azul, niños muy jóvenes, muy pequeños, ¿no? Entonces se ve claramente el efecto positivo de este fármaco, a pesar de que el grupo este de niños tiene un número muy bajo, pero bueno, actualmente es el mejor fármaco que tenemos para esta enfermedad.
Ça, c'est un vieux traitement et il y a des traitements expérimentaux qui ont été rapportés au Congrès américain l'année dernière et cette année, il y a 15 jours encore. Là encore, sur des modèles de souris qui sont très populaires avec un syndrome d'Alport récessif. Et ces souris ont été traitées avec un oligonucléotide dont on a parlé tout à l'heure, ces petites molécules, pour cibler un micro-ARN qui est exprimé dans beaucoup de maladies, de modèles de maladies de fibrose. Et quand on regarde le degré de la fibrose chez les souris qui sont traitées par un contrôle ici et ici, par rapport à celles qui sont traitées par cette oligonucléotide anti-MIR 21, on voit qu'il y a une diminution, ça ne sort pas très bien ici, de la fibrose. Et c'est une petite compagnie de biotech qui a développé cette molécule qui maintenant va peut-être être amenée jusqu'à un essai thérapeutique par Genzyme et Sanofi.
Esto se presentó recientemente, hace dos semanas, en el Congreso Americano de Nefrología en Atlanta, y se vio que en modelos animales de Alport, unas pequeñas moléculas, una pequeña molécula, contrarrestaba la fibrosis que aparece en los riñones con esta enfermedad. Entonces, una empresa que ha desarrollado esta molécula, que disminuye la fibrosis y mejora la función renal y la supervivencia en modelos animales de Alport, y parece que Genzyme, que pertenece a Sanofi, planea empezar un estudio próximamente de Alport en pacientes, entiendo.
Voilà, je voulais vous remercier beaucoup pour cette invitation. Je suis très touché et ça me fait très plaisir d'être là, et parce que depuis longtemps, je travaille beaucoup avec l'AIRG en France, bien sûr. Et merci beaucoup pour votre invitation.